Bonjour tout le monde, c'est vendredi le 22 novembre, bienvenue à ce 16e épisode de Sortie de zone. Ici Mario Langlois, en compagnie de Philippe Quentin et Jean-François Tremblay. Salut les gars!
Salut, Mario. À vous deux!
Comment ça va?
En pleine forme, ça va mieux que pour le Canadien. Elle est facile.
Si j'avais engagé, c'est lequel des deux, elle a me répondu ça. Jean-François, t'as-tu quoi à répliquer?
Ça commence comme ça, c'est le début logique.
C'est le début logique parce qu'on l'a dit dans quelques-unes de nos conversations, t'en gagnes 2-3, le coach l'a dit, t'en gagnes 2-3, oups, tu te parais bien, t'en perds 2-3, puis tout à coup, tu te retrouves sur la ligne. Mais avouons que c'est peut-être la première séquence, en incluant les blessures à Drouin et Byron et les 3 défaites de suite, où on sent peut-être un aspect de fragilité là, qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'année.
Tout à fait. Je pense pas, Mario et Jean-François, qu'il faille cependant s'en étonner beaucoup. Moi, je continue de penser que le Canadien est une équipe moyenne, et je le dis pas méprisément du tout. Que je ne pense pas que le Canadien fait partie des 4-5 équipes de tête dans la Ligue nationale. Pas plus qu'il ne fait partie des 4-5 moins bonnes équipes. Mm-hmm. Il est quelque part là avec un paquet de clubs qui doit se battre jusqu'au bout. Et ces clubs-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas parmi les meilleurs, c'est que c'est très difficile de coller des longues séries de victoires, de prendre un élan, puis de gagner match sur match, puis d'établir vraiment une certaine domination. On peut le faire pendant un certain temps, mais après ça, oups, l'effet de balancier revient. C'est un peu ça que le Canadien connaît comme période actuellement.
Ce que je trouve le plus dur avec la récente séquence du Canadien, c'est que ce sont trois défaites. C'est des points qui étaient prenables pour le Canadien. Et bon... Je pense qu'on l'a assez dit, là, les points à la fin de la saison, les points en courant. On fait pas les séries par 2-3 points. L'année passée, c'était 2 points pour le Canadien que l'équipe fait pas les séries. C'est des points à la fin qui sont indispensables. Là, on se ramasse contre New Jersey. On perd un point. Columbus. Perd un point. Ottawa. 3 équipes qui sont moins bonnes que le Canadien. Je suis d'accord Drouin, je suis d'accord Byron, c'est des pièces importantes de cette équipe-là, mais le Canadien a choisi un moment terrible pour commencer à jouer du mauvais hockey contre des adversaires qui ont un genou à terre, là, qui donnaient les points au Canadien. Des points qui, à la fin de la saison, sont indispensables. Moi, c'est ce que je trouve le plus frustrant en ce moment pour la situation du Canadien. C'est ces défaites-là contre des clubs prenables.
Je sais pas c'est quoi la différence. C'est une question de maturité. Je vais pas vous mettre des réponses dans la bouche, mais tu sais, tu regardes hier Edmonton s'en va jouer à Los Angeles, ils perdent 5-1 contre les Kings. Je parlais à Daniel Brière de ça hier dans notre conversation aux amateurs de sport. Je dis, Daniel, tu sais, coudonc, comment ça se fait qu'on voit pas la même équipe contre les Caps de Washington que contre des équipes qui, en principe, feraient pas les séries? Et il me répond tout de go que son club de la East Coast vient de perdre 6-1 contre le pire club de la East Coast. On s'habitue de la même façon pour chaque sortie d'envie, en quelque sorte. Mais je veux pas leur servir d'excuse, c'est fâchant, là. Mais je veux dire, c'est juste ça l'explication, parce que je sens déjà que l'argument de l'absence de Drouin et Byron est tentant pour expliquer ces défaites-là, mais si déjà contre des clubs qui feront pas les séries, ça t'ennuie à ce point-là, on va être obligé de pencher du côté de ton évaluation de l'équipe, puis même c'est inquiétant en tout cas.
Ben, c'est inquiétant, mais je pense que dans tous les succès du Canadien contre les bonnes équipes, contre les Blues de Saint-Louis et cette victoire magique il y a une semaine aujourd'hui contre les Capitals de Washington, il y a un élément là qui s'enlève rien au mérite du Canadien, mais souvent le Canadien n'a pas affronté le gardien numéro un adverse. Et peut-être que l'autre équipe pensait que le Canadien serait un petit peu plus facile à battre. Et le Canadien n'est pas une équipe facile à battre. C'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui répond présent, c'est une équipe qui se bat. On l'a vu à Vegas quand ils sont revenus de l'arrière. C'était vraiment beau de voir ça. Mais là, alors peut-être que ces matchs-là, ils sont allés chercher des points qui seront peut-être plus difficiles à obtenir en deuxième moitié de saison, parce que là, peut-être qu'ils ne prendront plus les meilleurs clubs à la légère. Mais ça, c'est l'aspect quand même positif. Ils avaient une occasion. Hop, c'est pas le gardien numéro un. L'adversaire s'attend peut-être pas à une opposition très grande du Canadien. Le Canadien en profite, gagne les 2 points. Mais inversement, peut-être que le Canadien se situe dans l'autre chaise quand il joue contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est ça. Il s'attend à ce que les Sénateurs d'Ottawa arrivent ici déjà battus dans leur tête, puis que ça soit facile. Mais non, c'est pas le cas. Les Sénateurs, mine de rien, ils vont bien depuis un certain temps. Jean-Gabriel Pageau est un des meilleurs buteurs dans la Ligue nationale, là, en novembre. Qui aurait pensé ça?
Surtout contre le Canadien, il y a le feu sacré revient pour Jean-Gabriel Pageau.
Puis Kachuk, tu sais, il marque le but en prolongation. Ben Kachuk, qui était repêché, le Canadien aurait pu le repêcher au 3e rang. Oups, ils ont pris Kotkaniemi. Ben Kachuk, il aime peut-être ça contre le Canadien, de montrer, vous avez passé par-dessus moi. Je suis un pas pire joueur de hockey, moi aussi. Alors, ces éléments psychologiques-là, ils existent, puis ils n'ont pas joué pour le Canadien cette semaine.
Je n'étais pas très à l'aise non plus de la réaction de Thomas Tatar après le but en prolongation. Il retourne, se retourne la tête vers Nick Suzuki comme si c'était la faute de Nick Suzuki. Là, on s'entend, la stratégie au hockey n'est pas très dure à 3 contre 3. Là. C'est on joue l'homme. Donc, c'est une personne qui surveille une autre personne. Alors, on voit clairement le jeu qui se développe. C'est 2 contre 2. Jeff Petrie chute. On s'entend. Bon, c'est pas
mais vrai. Ça commence dans le fond de la zone.
Ça commence dans le fond de la zone.
Suzuki, en partant, sont mal positionnés.
C'est exact. Mais c'est deux contre jamais... deux pareil, ouais, là. Ouais, tourne-toi ouais. pas vers le jeune ouais. en disant, c'était ton joueur.
À la fin du jeu. Mais bon, c'est sûr que Claude Julien n'a pas commenté le regard de Tatar, mais il a certainement commenté le fait que les deux gars sont tombés dans un piège de manque de concentration. Je ne sais pas trop quoi, mais c'est ainsi qu'il s'exprimait après la rencontre.
You know, overall, like I said, our game's not bad, but we let teams hang around and hang around, and eventually, you know, they tie the game, and laziness on the part of our forwards in overtime ends up costing us another point.
On laisse les équipes s'accrocher, puis là, ben, ce qui arrive, c'est que la paresse de nos attaquants nous coûte un point. Il y en a pas ciblé un en particulier. Je pense qu'il va laisser les gars démêler ça entre eux autres. Mais il était pas content. Claude Julien, depuis le début de l'année, on en a parlé, je pense. Ouais. Je me souviens pas si c'était aux amateurs ou dans les podcasts. Certainement dans les podcasts. Un ton très direct. Tu vois que c'est une année, lui, là, où on n'y est pas avec le puck. Il faut ramasser des points. Il faut faire les séries. Je pense pas. Il vient de constater ce qui s'est passé. Je pense pas qu'il est dans cette situation-là. Il vient de constater ce qui s'est passé avec Babcock à Toronto. Il veut des résultats cette année. Je me demandais, et on va écouter Daniel Brière là-dessus. Les joueurs en parlent-ils dans la chambre entre eux autres quand le coach attaque directement? De dire que tes joueurs sont paresseux, c'est plus délicat. Daniel Brière, à ce sujet-là.
Définitivement, ça va jaser. Les gars aussi vont entendre ce que l'entraîneur a à dire. Mais tu sais, ça va dépendre aussi du joueur. Quand c'est un joueur qui fait des gestes comme celui-là à maintes reprises, là, il n'y a pas de doute qu'il va y avoir de la frustration du côté des joueurs. Quand c'est un joueur à qui ça arrive, comme dans le cas de Suzuki, les gars vont comprendre que, écoute, c'est un jeune, il a mal paru sur la séquence, il a peut-être pas fait tous les efforts qui auraient été demandés, mais les gars sont prêts à leur pardonner d'abord qu'ils soient premièrement prêts à faire face aux accusations, puis qu'ils n'essayent pas de trouver des excuses. Puis, si ça arrive pas, là, à maintes reprises, ça arrive. C'est pas quelque chose qui arrive régulièrement.
On est prêt à pardonner aux recrues, sauf Tatar sur le jeu. Mais réaction, les gars, comment vous voyez la situation?
L'évolution de Claude Julien, moi, je la trouve très intéressante parce que il y a 2 ans, là, c'était une saison saison terrible pour le Canadien. Là, la saison à oublier. Non, mais vers la fin de la saison, Claude Julien était pas heureux. Là, c'était mais
okay.
Je pense pas qu'il espérait plus de son équipe. Il savait très bien ce qu'il avait sous la main. Il était pas
complaisant.
Il y a pas d'illusion. Ouais. Là, l'équipe, tout le monde le voyait. Là, la finalité de cette équipe là. Claude Julien a commencé à la fin de la saison à avoir un ton qui était, à mon avis, beaucoup plus direct, mais c'était de la frustration plus que d'autres choses. À ce moment-là, c'était comme ça que je le percevais. La saison dernière, Claude Julien, à mon avis, a changé beaucoup de ton parce que généralement, la couverture de l'équipe et l'opinion du public et des médias envers l'équipe a changé. Ça a été une belle surprise au début de la saison. L'équipe était bien meilleure qu'on le pensait. Et je pense que tout le monde un peu a embarqué sur ce train-là. Claude Julien, le premier, a changé un peu son ton. Cette année, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle situation. Le Canadien a un certain nombre de chevaux pour au moins espérer lutter pour une place en série et qui sait peut-être plus.
De faire au moins aussi bien que l'an passé, de lutter, là.
Mais doit faire mieux que l'an passé. Ouais. Alors, quand le Canadien ne le fait pas, ce qu'il n'a pas fait au cours des derniers matchs, c'est là que Claude Julien devient beaucoup plus direct. Et j'ai aucun malaise. C'est juste qu'il faut rentrer derrière l'histoire de Claude Julien. Il n'est pas en ce moment plus bête ou moins bête ou plus direct ou moins direct. C'est que.
Mais moi, j'aime son ton, j'aime son discours.
Tout à fait, mais la trame narrative du Canadien en ce moment est là. Le Canadien, dans la tête de Claude Julien, au moins, a ce qu'il faut pour faire un bout de chemin. Et quand le Canadien joue comme il l'a fait au cours des derniers matchs...
Même dans les victoires, Jean-François. Même dans les victoires,
Claude Julien le voit, pas vraiment ce qu'il a,
de son jeu. Il
sait à peu près ce qu'il a sous la main.
Oui, oui.
Il a vu l'année passée l'évolution de l'équipe. On est à des années-lumière d'il y a 2 ans. C'est pour ça, à mon avis, que Claude Julien change le ton.
Ben, moi, comme journaliste, j'aime ça. J'aime ça, un coach qui dit des vraies choses, qui parle de paresse après un match. Puis, il a fait des fois des commentaires un petit peu plus tôt cette saison. Il s'est arrivé à 2 reprises qu'il a dit à propos d'un joueur... qui allait coup-ci, coup-ça, ben, il nous nuit pas dans le moment. Tu sais, il ne nous nuit pas. C'est pas le plus beau compliment que tu peux faire à un joueur de
c'est
ton équipe.
C'est comme être ponctuel, ça.
Ouais, c'est ça. Alors, mais il faut reconnaître que il joue sur un terrain glissant à ce moment-là. Parce que si jamais les défaites s'accumulent, que l'ambiance commence à être un peu moins bonne, Daniel Brière l'a mentionné tantôt, ça jase dans le vestiaire. Mm-hmm. Puis les joueurs, là, si ça va bien, si ça va mal avec l'équipe, ils vont se regarder un peu, mais c'est pas vrai qu'ils vont prendre tout le blâme sur les épaules. Ils vont dire, ouais, ben le directeur général, il nous a-tu vraiment amélioré pendant l'été? Y a-tu fait trop confiance à des jeunes qui ont encore beaucoup de choses à prouver? Y a-tu bien évalué son personnel? Puis là, le coach qui, lui, nous dit que parfois on est un peu paresseux ou qui est un peu plus mordant qu'à l'habitude. Coudonc, lui, est-ce qu'il s'en reproche aussi? Tu sais, là, je regarde aujourd'hui, là, on apprend que Max Domi retourne au centre. Bon, Max Domi est au centre, il est allé à l'aile. Là, Claude Julien vient de découvrir qu'à l'aile, pas convaincant. On est peut-être mieux de le mettre au centre, il va mieux exploiter sa vitesse. Il y a des joueurs qui vont dire qu'il ne savait pas ça avant, là. Alors, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu embarques dans un terrain glissant. Si l'équipe gagne, bat les Rangers, remporte une coupe de victoire, puis on oublie cette séquence-là, ça laissera aucune trace. Si l'équipe s'enfonce un peu, là, ça va commencer à jaser dans le vestiaire. On a vu ça tout le temps dans le sport professionnel, pas simplement au hockey, mais dans tout le sport professionnel. C'est la nature humaine.
C'est juste une parenthèse bien philosophique. C'est comme le secret de l'œuf ou la poule ou de la caramilk. Est-ce que, tu sais, comme j'ai hâte de voir à Toronto, on en reparlera tout à l'heure, ouais. Est-ce que le fait de commencer à éprouver du plaisir à nouveau à jouer au hockey va faire qu'ils vont redevenir une équipe de pointe? Puis est-ce que tu as du plaisir parce que tu gagnes ou tu gagnes parce que tu as du plaisir? Et donc, c'est important. Puis c'est difficile à garder la notion de plaisir quand tu perds 3 matchs en ligne.
Ben, voilà.
Le ton
voilà.
Change, veux pas, et entre les joueurs, quand la porte se ferme, que le coach a le dos tourné. Sans être fataliste, parce que c'est là que je pense que ça compte d'avoir un bon leadership aussi.
Ouais, exactement. Puis peut-être qu'il va falloir que le Canadien, tout à coup, là, s'il y a encore s'il y a une défaite contre les Rangers, là, ça va être plus dur. Là. Une défaite à Montréal contre un autre adversaire.
Ça serait pas une bonne idée de perdre, là,
ça ne serait pas une bonne idée. Peut-être qu'il y aura lieu à ce moment-là pour les joueurs de se parler un petit peu là, entre eux.
Comme à Calgary, ils ont fait un meeting
après 5e ou 6e défaite consécutive, ça va très mal. Puis ils se sont dit leurs 4 vérités. Je pense que c'est Giordano, le capitaine, qui a dit « on s'aime tous beaucoup ». Bon, on avait le besoin de se parler, tu sais. Il a dit ça, je pense, hier. Mm-hmm. Alors, peut-être que le Canadien, faudra qu'il en vienne là tout à coup, surtout s'il y a une défaite samedi.
Je trouve intéressant ce que Phil vient de dire parce que on se rappelle l'année passée, le Canadien, il y a eu un moment donné, après une victoire, si je me rappelle bien, contre les Jets de Winnipeg, ouais. Qui avait été une victoire exceptionnelle.
En février. Avec Jonathan Drouin.
Son
qui a
dernier
joué tout
gros match de la saison,
les
d'ailleurs.
Gros match de Jonathan Drouin, ça avait été un match exceptionnel. Puis si on se rappelle bien, à ce moment-ci, le moral était au plafond. Ouais. L'équipe marchait sur l'eau, là, pratiquement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Défaite, des séries de défaites. Et le Canadien s'est mis à glisser peu à peu au classement,
vrai,
jusqu'à en être exclu. Il est tôt dans la saison, là, mais est-ce qu'on peut commencer à... En fait, pour le Canadien, il faut s'assurer qu'on ne soit pas capable de dresser un parallèle entre cette victoire impressionnante contre les Capitals de Washington, qui mène à une série de défaites ensuite, et cette victoire impressionnante contre les Jets de Winnipeg, qui a mené à une série de défaites. Alors là, comme vous venez de dire, là, les Rangers, faut arrêter ça à 3. Là.
C'est très bon
pour le Canadien,
ce que tu dis.
Il faut que l'équipe arrête ça à 3.
Ça revient à ça, puis je pense que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, puis ma réaction, c'est quand Claude Julien, même dans les victoires, ne semblait pas totalement satisfait de la performance, tu sais, il veut des performances plus solides pour faire... Il est conscient là, des carences de son équipe, Philippe.
Oui, bien conscient, puis il y a de la pression, Claude Julien aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, si le Canadien ne participe pas aux séries éliminatoires cette saison, là, ce serait une 4e fois en 5 ans. Lui, là, il est arrivé ici, il y avait une équipe qui était en première position de sa division. Il a fait une ronde éliminatoire, puis depuis ce temps-là, ça va pas très bien. Là. Alors, il faut absolument qu'il y ait des résultats. Puis moi, je pense qu'il y a eu un petit peu d'impatience dans son ton parfois, mais j'ai l'impression qu'il commence à ressentir cette pression-là. Puis je pense que Marc Bergevin aussi, parce que tu sais, s'il n'y a pas de série encore cette année, là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Là? C'est ben, il faut attendre une autre année pour les jeunes, puis c'est difficile de faire un échange, puis il y a tellement de parité, c'est parce que tout à coup, là, les gens ils vont devenir saturés d'entendre ça.
Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, ça doit discuter puis dans le même but là, mais juste par exemple Marc Bergevin, sa dernière sortie publique parlait de réduire la charge de travail de Carey Price. Mm-hmm. Il a fait un 2-2 cette semaine, puis le Canadien a perdu 2 matchs. Alors tu vois que déjà la ligne tracée pour la saison a pris le bord. Et il y a déjà un entraîneur qui a perdu son emploi. Il y a déjà une équipe qui fait un meeting sans ses entraîneurs. Ouais. On est rendu au quart de la saison. Ouais. Alors, tu sais, une ligue paritaire, des équipes qui jouent au yo-yo dans le classement, les Canadiens pas seuls. Je reprendrai ton image du début, là. T'as les cinq meilleures équipes, les cinq pires. Puis je te dis que dans le milieu, là, des séquences de deux, trois défaites en ligne, quatre, il y en a. Puis là, après ça, tu sais, c'est très difficile de se maintenir.
Puis non seulement ça, Mario, là, mais tu regardes le classement, là. Puis tu dis, regarde, bon, Canadien, dans le fond, pas trop pire, là, troisième de sa division. Mais il y a une anomalie dans le classement. Il y a deux anomalies
dans le classement.
Il y a l'anomalie Maple Leafs de Toronto, puis il y a l'anomalie Lightning de Tampa Bay.
Encore plus grande.
Peut-être Buffalo, mais c'est approuvé Buffalo.
Mais c'est approuvé. Les deux autres, là, théoriquement, là, sur papier, là, sont plus forts que le Canadien. Alors, est-ce qu'ils vont rester encore longtemps derrière du Canadien? Puis Boston et Floride, est-ce que Boston ne s'écroulera pas? Floride, ça serait étonnant. Alors, si tu es Marc Bergevin ou si tu es Claude Julien, tu regardes ça, tu sais que tu n'es peut-être pas dans une position aussi extraordinaire que le classement l'indique à l'heure actuelle. Parce que ceux qui suivent, là, ils ne devraient pas être derrière.
J'aimerais amener le point de comprendre un peu de Max Domi.
Juste avant, pour finir, puis enchaînons
non,
sur Domi.
Non, Mario, on parle de... Non, je te blague.
Non, mais sur le classement, là, c'est il y a plusieurs équipes qui ont des fiches de 500 ou moins dans le portrait des sirènes en ce moment. Ouais. Je sais pas si ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Max Domi, penses-tu que Toronto l'aimerait?
Oh, j'étais pas prêt à cette annonce-là. Il
semble qu'il serait beau une chandail des Leafs. Non?
J'ai été...
Ça dépend retour de qui.
Ouais.
Exact. J'ai été très déçu du rendement de Max Domi quand il était placé à l'aile. De toute évidence, ça lui tentait pas de jouer à l'aile. Il se voyait au centre. Et il jouait seul sur la glace. Il avait oublié qu'il y avait des coéquipiers. Il avait pas confiance en ses coéquipiers depuis quelques matchs. Ça paraissait. Il était avec Suzuki. Il a joué avec Armia aussi. De toute évidence, il avait pas confiance en ses coéquipiers. Peut-être, je ne sais pas s'il boudait parce qu'il s'ennuyait de Drouin, son ami, ou s'il aurait voulu jouer avec son autre ami, Nick Cousins. Je ne sais pas. À un moment donné...
C'est-tu tant des amis, Domi Drouin, que ça?
Ben, je crois que oui.
Ah oui? Hein?
Je crois qu'ils sont amis. Okay. Dans tous les cas, qui aiment jouer ensemble, à tout le moins. Mais de toute évidence, il n'a pas apprécié de passer à l'aile et que Nick Suzuki se ramasse au centre. Et ça a paru dans son jeu. Il a oublié de jouer en équipe. Et ça a donné les résultats des derniers matchs. Il est de retour au centre. J'imagine qu'à quelque part, Claude Julien est tanné de le voir bouder. J'ai été très déçu de toute cette gestion-là. Je comprends que l'absence de Jonathan Drouin a forcé Claude Julien à faire des choix. Nick Suzuki a bien fait au centre, puis le retour de Kotkaniemi aussi. Mais je veux dire, à un moment donné...
Si une équipe, ça lui monte à la tête terrible. De battre un gros club comme Winnipeg l'an passé ou Washington cette année, c'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure puis j'ai perdu le fil. Ça se peut-tu que ça monte à la tête d'un joueur d'avoir une année qui le ramène, qui lui permet de sortir de la tête hors de l'eau?
Zéro doute là-dessus, là, parce que en plus, lui, il est dans une année...
De préparation, 72 points l'an passé. Là, c'est devenu le gars qu'on attendait quand il était dans le junior. Tu sais, en Arizona, il était en dessous du radar solide. Puis là, tout à coup, puis à Montréal, avec la propulsion médiatique, pan-canadienne,
puis là, regarde, si t'es Marc Bergevin, là, tu regardes ça, 72 points l'an dernier, toute une transaction, tu sors gagnant de la transaction, zéro doute là-dessus. Puis là, tu dis, hey, là, j'ai un champion, là, Max Domi, vraiment un solide joueur qui va nous aider pendant des années. Là, tu es peut-être prêt à lui concéder un contrat à long terme. Mais là, tu regardes comment ça se passe cette année. Si tu es à la place de Bergevin, probablement que tu dis...
Drapeau jaune.
Ben, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre février. Ça ne sera pas tout de suite. Je vais attendre, puis je vais voir. Puis prenons notre temps. De façon, on peut aller en arbitrage. Sauf qu'aller en arbitrage, on le sait, là, c'est une arme à deux tranchants. Des fois, il se dit des vérités dans les séances d'arbitrage qui laissent des traces. Puis pour Max Domi, là, aller en arbitrage avec une saison de 72 points ou aller en arbitrage avec une saison de 50 points, c'est pas du tout la même affaire.
Et mon petit doigt me dit que s'il y a une chose que Marc Bergevin n'apprécie pas, c'est qu'un gars se serve de son capital de sympathie et qu'il joue là-dessus autant que sur la glace pour entretenir la flamme du genre de dire des bons commentaires de Montréal aux médias de Toronto. Nous autres, c'est de la musique à nos oreilles, mais le DG, c'est pas un nono, là. Il sait exactement sur quel piton peut appuyer un gars comme Max Domi. Puis je ne pense pas, je sais pas si ça a fait en sorte que le DG, là je spécule, puisse être braqué dès le début de la saison par rapport à ça, parce que ça a jasé de contrat avant l'année, là, ça a jasé. Puis Max Domi a sans doute eu un retour qui n'était pas celui qu'il espérait. Mais j'espère qu'il est plus mature que ce qu'il affiche sur la glace. Là, il n'y a pas de but. Ouais. Un but à ses 17 derniers matchs. Un but, deux passes à ses 12 derniers matchs. Ouais, Suzuki va le dépasser dans la production bientôt.
Ouais, puis tu sais, Bergevin, il y a un exemple qu'il ne faut pas qu'il oublie. Puis je suis certain qu'il n'oublie pas parce qu'il a été marqué par cet exemple-là. Et ça, c'est un bon coup qu'il a fait. Souvenons-nous de la transaction qui a amené Thomas Vanek en 2014 avec le Canadien à la date limite. Ça a été applaudi par tout le monde et Vanek a rendu d'immenses services aux Canadiens. Je sais qu'aujourd'hui, on regarde ça un peu de haut. C'est pas le cas, là. Dans le dernier droit, il avait été vraiment bon.
Ouais.
Le Canadien est rentré en série sur un air d'aller. Il a déçu après en séries éliminatoires. Il a tellement déçu en série que Bergevin, là, tout le monde lui disait « Hey, vite, faut signer Vanek. »
Il l'a pas gardé.
Puis il l'a pas fait. Il l'a pas signé. Puis il l'a pas gardé. Puis il s'en est félicité d'avoir été patient puis de pas avoir agit sur l'impulsion du moment. Oui. Il aurait signé Vanek à ce moment-là 7 ans à 6 millions ou plus encore. Tout le monde aurait applaudi. Il ne l'a pas fait et grand bien lui fasse. Il a pris la bonne décision. Alors avec Domi, moi, je pense qu'il va être très prudent.
Faisons l'exercice.
Patient.
Jean-François, tu donnerais combien à Max Domi contrat? Je veux dire, ils ont pensé à ça chez le Canadien. Là. Deux ans, cinq ans, sept ans, huit ans?
Au moment où on se parle, on négocie pas avec Max Domi.
Non, mais avant la saison.
Mais avant la saison, il y a... Honnêtement, je pense que il aurait pu avoir un 5-6 ans, 7 ans même, puis le public, à ce moment-là, l'aurait accepté. Je pense pas que ça aurait été la meilleure décision. On s'en était parlé, d'ailleurs,
ouais,
dans
c'est
les premiers podcasts.
Oui.
Et j'avais justement dit que le Canadien avait tout avantage à attendre dans le dossier, parce que je pense que négocier avant la saison, Max Domi, peut-être... avait la valeur un peu trop en hausse par rapport à ce qu'il vaut pour vrai.
Je pense qu'on s'attendait à une normalisation. Là.
Exactement. Là, on voit la normalisation qui se passe du côté de Max Domi. Le boudage des derniers jours joue certainement
pas
en sa faveur.
Équipe en premier.
Non, vraiment pas, parce que Marc Bergevin adore les joueurs qui... Team first,
ouais,
l'équipe en premier.
Exactement. C'est pour ça que tu me dis, tu parles de contrat pour Max Domi en ce moment, moi je dirais...
On n'est pas là pantoute.
Il n'y a aucun moment en ce moment où le Canadien a avantage à négocier avec Max Domi. Probablement que Max Domi a avantage à négocier tout de suite en ce moment parce que lui peut-être qu'il sent un peu son
Mais lui, il y a une belle occasion. Tu sais, dans le moment, ça va mal, mais il y a une occasion extraordinaire. Là. Le Canadien, on vient de le dire, il est dans une pente descendante. Là. Garde, si tu as vraiment ça en toi, là, sois donc le héros du match samedi contre les Rangers. Vas-y, joue comme tu es capable de jouer. Puis tu peux changer l'allure de la conversation très rapidement.
Je veux juste vous lire la citation de Max Domi quand il est terminé au centre à l'entraînement. « J'ai pas eu le temps de retrouver mon rythme. Ça fait plus de 100 matchs que tu joues à la même position. On parle d'une longue période. S'il y a un autre moment où je dois jouer à l'aile, je trouverai une façon de m'ajuster pour aider l'équipe. Pour l'instant, je suis de retour au centre et je suis heureux avec ce changement. » Je veux dire, moi, je... C'est pas une citation, moi, qui m'impressionne,
non.
Honnêtement.
Ben honnêtement, il fait...
Pourquoi ça t'impressionne pas?
Ben parce que sur la glace, quand ça a été le moment de montrer à l'absence de Jonathan Drouin qu'il devait faire la différence, il l'a pas fait. Il y a eu trois matchs qui étaient vraiment en dessous de ce qu'il devait offrir. Des matchs où, ce qui m'a fâché le plus dans ces matchs-là, c'est qu'il a oublié qu'il jouait en équipe. Il y a eu une passe à un moment donné qui était absolument sublime. Je pense à Joel Armia qui est parti en échappée. Une passe absolument sublime, soulevée. Mais le reste du match, il essayait de passer au travers de quatre joueurs au milieu. Il oubliait qu'il y avait des coéquipiers. J'ai été très déçu de sa performance.
Faisait ça l'an passé. Je le dis à toutes les fois qu'on en jase. Là, j'espère que vous avez vu ça l'an passé aussi. Là. Il y a eu un gros début de saison.
Oui, mais
les derniers
matchs, ça m'a frappé.
Partout,
ça m'a vraiment frappé.
C'est d'essayer de passer à travers deux défenseurs avec un bâton de 36 pouces, tu sais, à l'eau.
Moi, c'est ce qui m'a déçu. Puis après ça, il est dans le vestiaire aujourd'hui, puis il se la joue. Ah, je suis heureux, on me ramène au centre. Non, t'as pas fait ce que tu avais à faire dans les matchs d'avant. Moi, c'est ça qui me fâche. Fâche. C'est un grand mot, là.
Non, je comprends.
Vous comprenez ce que je veux dire.
Absolument.
Ta déception est amère.
Ma déception,
envers
exactement.
Le jeune Domi.
Ben, on est curieux.
Mais
parce
il est capable
ça a été une
de
belle
mieux.
Surprise l'an passé. Il lui reste à prouver que c'est un vrai joueur d'équipe et qu'il n'est pas juste motivé quand il joue à Toronto. Parce que, clairement... Il y a des gars qui offrent des meilleures performances dans certaines circonstances, puis lui, ben, tu vois, quand il joue contre Toronto, peut-être qu'il y a d'autres équipes, Boston un peu, tu sais. C'est vrai pour tous les joueurs, mais lui, vraiment, là, il y en a deux couches de plus. Qu'est-ce que ça dit sur la Ligue ou sur le Canadien, qui est dans le portrait des séries, malgré trois défaites consécutives? KK, on le voit pas. Hudon, c'est un joueur qui a approuvé que c'est un joueur de la Ligue nationale, c'est pas fait. Armia, bon début de saison. Là, il est sur le chloroforme. Je sais pas si vous trouvez qu'il joue du gros hockey. Bon, Tatar a des points au classement, mais tu sens une impatience de Claude Julien. Il était d'un deux gars qui a traité de paresseux, puis il a déjà changé de trio. Lekkonen n'est pas capable de compter un but d'un but de soccer. Il en a compté un l'autre soir, on va lui donner ça quand même.
Je l'aurais
remarqué. Domi ne produit pas. Oui, il est un gars, tu sais, un gars qui s'aligne entre la Ligue nationale, quatrième trio. On l'aime bien, mais tu sais, il a pas réussi à s'implanter. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça dit sur la Ligue ou sur le Canadien? Je pense que ça révèle peut-être plus sur la Ligue. Il y a pas d'équipe parfaite que je me plais à répéter.
Non, il y a pas d'équipe parfaite, mais ça en dit long sur le Canadien aussi. Ça en dit long que, regarde, malgré tout, là, on vient de mentionner beaucoup, beaucoup de noms de joueurs du Canadien, mais il y en a un, je pense, qu'on n'a pas mentionné encore, puis c'est toujours lui la clé. Puis c'est le numéro 31. Puis quand lui il est là, puis qu'il garde les buts comme capable de le faire, il porte le Canadien. Carey Price porte le Canadien. Puis contre Ottawa, tu sais, il donne un but en 60 minutes. Il a fait son travail. L'équipe n'a pas été capable d'aller. Il est allé quand même pas mal au bout là, de ce qu'il pouvait faire. Il n'est pas pour les blanchir à tous les matchs. Là, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis après ça, le but en prolongation, Tkachuk, il fonce comme un train, une échappée, toute une feinte, ça arrive. Alors, pour moi, ça dit sur le Canadien que le Canadien, au fond, là, a pas beaucoup changé depuis 2 ans. C'est axé sur Carey Price, puis il n'y a pas assez de diversité dans les autres atouts. La défensive, on le sait, c'est laborieux. Des fois, oui, des fois, non. Weber joue un bon match. Chariot a mal commencé, va mieux, mais il y a encore un certain nombre de trous. Puis à l'attaque, et tu perds un gars comme Drouin, là, ça fait mal dans une équipe comme celle-là, parce que Drouin, il est capable d'attirer l'attention des autres, puis whoops, avec une belle passe, il repère un joueur libre. Puis ça, c'est un...
Ton équilibre fragile des trios est compromis avec deux absences,
exactement.
C'est pas tant qu'il carburait à fond la caisse avant d'être blessé, mais t'as raison, c'est un gars, fallait que comme adversaire, faut que tu prennes note qu'il est sur la glace.
C'est pas comme si les options de rechange là, étaient nombreuses. Là.
Non.
Vous avez mentionné Kotkaniemi tantôt, a eu un match absolument terrible contre les Blue Jackets de Columbus. Il y a un moment où on se demandait s'il avait oublié comment patiner. On dirait que son coup de patin fonctionnait plus. Je veux dire, je comprenais pas ce qui se passait. Mais contre les Sénateurs d'Ottawa, il y a eu une bonne première période. Les deux autres périodes, correct, là. Il n'y a pas nuit.
Sais-tu ce qu'il y a de bon dans
Kotkaniemi? Mais il y a eu une bonne première période. Et là, on a pu se rappeler un peu de ce que Kotkaniemi était capable de faire dans sa première période contre les Sénateurs. Mais au moins une période.
Mais, tu sais, puis là, moi, j'espère qu'il va être bon, mais clairement, à date, ça n'a pas l'air d'avoir été la bonne décision repêchage. Là, c'est aussi clair que ça. Mais les bouts, il paraît bien. C'est les bouts, il n'y a pas personne sur lui. Puis là, il prend une coupe d'enjambée en zone neutre. Là, il a l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Il n'y a pas personne sur lui. Là, clac, clac, là, il peut faire une belle entrée de zone. Il a l'occasion de prendre un peu de vitesse. Mais aussitôt que le jeu se resserre, oublie ça. Il n'est pas là pantoute. Là,
j'avoue que là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Puis c'est un autre qu'il va falloir qu'il prouve ce qu'il est capable de faire assez rapidement. Parce que, tu sais, je comprends, le Marc Bergevin a dit que peut-être qu'il traînait une blessure. Hein, il n'y avait pas l'explosion sur patin en début de saison. Puis bon, je trouve que le Canadien a été fin avec lui. Tu sais, justement, quand le ton dans la population, les analystes commençaient à être plus durs envers Kotkaniemi. Bergevin est sorti, puis il a dit « Ah, écoutez, il y a peut-être d'autres choses. » Tu sais, au début de la saison, on trouvait que sa jambe, son aine, c'est peut-être qu'il traînait ça depuis longtemps. Puis je pense que tout le monde a dit « Ah, OK, on ne savait pas ça. » C'est peut-être le cas. Là, ils lui ont donné un bon repos, en fait, tellement un bon repos que lui voulait revenir, puis on dit « Non, non, tu vas prolonger ton repos. » Mais là, tu t'attends à ce que là, ça soit un feu d'artifice sur la patinoire. Peut-être pas en termes de réalisation. Tu t'attends pas à ce qu'il marque 3 buts à tous les matchs.
En termes d'énergie,
en termes d'énergie, qu'il provoque des occasions, puis qu'il fasse des choses. Là, on voit pas ça. Donc, là, moi, depuis le début, tu le sais, Marion, on en a parlé souvent. Je disais tout le temps patience, patience, patience. Mais là, je trouve qu'avec tout ce qui s'est passé, bien protégé par son directeur général, on lui donne le temps de se reprendre, puis là, il se passe rien encore. T'sais, une période contre Ottawa, là, une période contre Ottawa. Il va faire quoi contre Boston? Un chiffre? T'sais, je veux dire,
facilement là. Quand il se fait pousser. Ouais. Je sais pas. Ça va prendre clairement, lui, ça va être un chemin de développement qui va être plus long que d'autres. Puis peut-être qu'il va être un centre dominant là, dans les prochaines années, mais clairement, là, toi, qu'est-ce que tu observes pour compléter sur Kotkaniemi?
Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Une petite parenthèse sur Charles Ludon. J'ai pas détesté Charles Ludon. Je trouve que ça fait 3 matchs qu'il travaille. Il travaille vraiment très fort. Il est vraiment meilleur qu'il l'était avant en récupération de rondelles pour aller chercher les rondelles.
Il est meilleur que l'an passé.
Oui, je suis d'accord avec toi, Mario, mais il avait quand même des aspects de son jeu à améliorer l'an passé. On s'entend, tout le monde est d'accord. Mais je crois sincèrement qu'il a repris une belle confiance en Ligue américaine. Il était 4e buteur de la Ligue. On s'entend qu'il a retrouvé la sensation de la rondelle dans le fond du filet pendant qu'il était avec Joël Bouchard. Je pense que sa relation avec Joël Bouchard a été assez... c'est bien passé, a été impressionnante pour lui. Au moins, l'a aidé à retrouver sa motivation. Et Charles Hudon, sa grande lacune, en fait, il y avait deux lacunes. C'est qu'il n'était pas capable d'aller récupérer les rondelles, puis il y avait un coup de patin déficient. Je pense pas qu'il est devenu un patineur explosif du jour au lendemain, mais je suis heureux de le voir aller chercher les rondelles quand sont à la possession d'un joueur de l'autre équipe. Juste ça, là, moi, je pense que Claude Julien l'a remarqué parce que c'est ce qu'il reprochait à Charles Hudon. Il n'aimait pas que l'autre équipe marque des buts quand il était sur la glace. C'est tout ce qu'il demandait à un joueur de quatrième trio.
Ouais.
C'est la seule exigence d'un joueur de quatrième trio. Coûte-moi pas de buts. Charles Hudon lui coûtait des buts. Et depuis les trois matchs, je crois pas qu'il en coûte.
Il y a intérêt, en tout cas, à être combatif parce que...
C'est ma parenthèse, Charles Hudon.
Charles Hudon a pas prouvé nulle part que c'était une machine à scorer des buts. Comme, c'est comme si les gens le voyaient comme un gars qui attendait d'exploser offensivement. Puis regarde ses statistiques partout en carrière. Là, je veux dire, même Junior a jamais scoré plus que 30 buts dans une saison de 56 matchs. Mais les gars qui brûlent le Junior, ils vont en marquer plus que
ça.
Puis là, je le déprécie
tous.
Pas. C'est un bon joueur, mais c'est pas une machine
tous,
à scorer. Là.
On souhaiterait tous qu'il réussisse.
Ben oui. Ouais.
Tout le monde veut que Charles Hudon réussisse. Un gars de chez nous, puis il est sympathique, puis il travaille fort, puis il a une coupe de malchance. Puis, tu souhaites qu'il réussisse, mais c'est une ligue qui est difficile. Moi, je persiste à dire que pour Charles Hudon, le mieux... et de loin aurait été un nouveau départ avec une autre équipe cette saison. J'étais content pour lui quand il a signé son contrat avec le Canadien, mais je pouvais pas m'empêcher de penser, il me semble que ça aurait été mieux pour lui d'aller dans une organisation où on aurait jeté sur lui un regard neuf, un regard frais.
Peut-être
le Canadien, puisque le Canadien semble déjà avoir fait pas mal son idée à propos de Charles Hudon. Je ne sais pas s'il va arriver à changer la perception de ce qu'on
vient
de dire.
Il y a l'opportunité de faire changer d'idée les dirigeants du Canadien parce que là, il pratiquait ce jeu de puissance à l'entraînement matin, va jouer sur un autre trio. Mais je reviens à une discussion qu'on a déjà eue, puis que même on y a un peu touché aujourd'hui. C'est que c'est inquiétant de... Tu dis, bah, le Canadien n'a pas fait d'acquisition, c'est la même équipe, puis il n'y a pas eu d'amélioration. Mais il y a une amélioration potentielle, elle passe par l'amélioration des jeunes. On peut en convenir. Donc Suzuki, je pense que le jeu de Suzuki, même si il s'est fait pointer du doigt en prolongation, je veux dire, lui, c'est un indice que le Canadien, clairement, t'as pas besoin de quatre trios qui marchent à fond pour être dans le portrait des séries. T'as besoin d'une couple de joueurs qui charrient tes trios.
Puis d'un bon gardien.
Puis qui charrient ton équipe, puis d'un bon gardien. Suzuki, clairement... pivoter un deuxième trio ou joue sur une deuxième unité aujourd'hui, Claude Julien, il fait vraiment confiance. Il était en prolongation tôt, il venait de débarquer en fin de troisième. Ça devient un de ces, excusez-moi l'expression, de go-to guy. C'est une recrue. Fait que lui, il va faire du Canadien une meilleure équipe. Kotkaniemi est pas dans cette lignée-là, puis c'est là que ça fait mal. Fleury est dans cette lignée-là, je pense, comme défenseur, même s'il fait des erreurs. Mauvaise sortie de zone l'autre jour qui a coûté un mauvais but à Columbus. Mettez, en ce qui me concerne, même si c'est pas une recrue, moi, je trouve qu'il est sur une pente ascendante, de plus en plus solide. Fait que l'amélioration passe par là, mais le fait que Kotkaniemi progresse pas cette année... ça fait mal à l'équipe, surtout quand t'as des blessés comme Drouin. Ben,
aucun doute là-dessus. Il fallait qu'il y ait une amélioration à sa deuxième saison. On le sait qu'une deuxième saison pour un jeune athlète, c'est difficile.
C'est difficile.
Puis je pense que personne lui voulait qu'il... en tout cas, pensait qu'il allait brûler la Ligue et devenir le joueur dominant là. Mais il faut quand même qu'il en donne un peu. Puis là, dans le moment, il n'en donne pas vraiment. Ça fait que c'est sûr que ça fait mal.
Les gars, est-ce qu'on parle un petit peu des Leafs de Toronto qui ont gagné un premier match hier? Un petit mot là-dessus et on va écouter Daniel Brière sur Mike Babcock. Il a joué pour Mike Babcock. On va écouter Dan Brière un instant qui commente c'est quoi la réalité. Mais lui, il a joué seulement 30 jours fois 2. Et écoutez Dan.
J'ai eu Mike Babcock personnellement deux fois, mais seulement pour des courtes périodes de temps. C'était au championnat mondial junior à 97. Puis au championnat mondial en 2003 à Prague, les deux fois comme entraîneur-chef. Donc moi, je l'ai eu là pour un mois à deux reprises. Puis écoute, c'est un entraîneur extrêmement demandant. Je peux voir comment, après là, passer une saison complète avec lui, comment ça pourrait être difficile sur le moral. On a entendu, moi, en tout cas, j'ai entendu la même chose de plusieurs joueurs qui ont joué pour lui dans le temps à Détroit. J'ai pas entendu grand-chose à Toronto. Je ne sais pas s'il a changé de ce côté-là, mais je sais là, qu'à ses débuts ou ses années à Détroit, il était très, très difficile de jouer pour lui. Donc, j'ai hâte de voir s'il va avoir une réaction différente là, de la part des joueurs.
En tout cas, Mario, moi, je peux dire une chose. Hier, là, on a vu les Maple Leafs de Toronto jouer un match sensationnel. 3-0 en Arizona. Pour Babcock, ça a dû être dur à prendre. Lui qui voulait soigner le jeu défensif de l'équipe. Puis voilà que sans lui, il blanchit cet adversaire pendant presque toute la durée du match. Les Coyotes ont fait un but à la toute fin. Je pense qu'ils en avaient assez de Mike Babcock.
Ouais, toi, Jean-François, comment t'as vu ça?
Ouais, c'est dur de voir ça d'aucune autre manière. Là. Mike Babcock... il était rendu à 6 défaites, je pense, quand ils ont décidé finalement de tirer la plug sur l'expérience Mike Babcock. Ce que je trouve intéressant, par exemple, avec la nouvelle situation des Maple Leafs de Toronto. Vas-y, Mario.
Mais j'allais juste dire que la fiche des Leafs, avant le match d'hier, c'était de 9 victoires, 10 défaites et 4 défaites en prolongation. Alors, nettement bas de 500.
C'est impossible d'expliquer cette fiche-là des Maple Leafs de Toronto avec le talent que cette équipe-là a sur la glace. C'est absolument impossible. Ce que je trouve intéressant avec la nouvelle histoire autour des Maple Leafs, Sheldon Keefe, 39 ans, Kyle Dubas a l'air du ressemble au chanteur de Weezer. Il ne doit pas avoir 40 ans. Je connais pas son âge exact.
Il est en début de trentaine. Je pense qu'il a 33 de mémoire.
Bon, 33 ans. Je trouve assez intéressant qu'une équipe comme les Maple Leafs de Toronto, avec l'histoire des Maple Leafs de Toronto...
Il a 33 ans, puis c'est sa fête le 29 novembre, il va avoir 34.
Bon, voilà. Alors, une équipe comme les Maple Leafs de Toronto, qui a une telle histoire, qui a une telle réputation à travers la LNH, qui décide de prendre la décision d'avoir un coach de 39 ans, un des plus jeunes de la Ligue, un directeur général de 33, bientôt 34 ans... C'est presque des milléniaux là, dans le monde du hockey. Là. C'est un virage jeunesse dans la gestion de l'équipe.
Puis t'aimes ça, toi? Ou...
Tout à fait. Okay. Je trouve ça très, très, très intéressant parce que...
Mais t'as pas de garantie de plus de résultats, nécessairement.
Non, t'as aucune garantie de résultats. Mais n'importe quel entraîneur à qui tu parles en ce moment va dire que les jeunes de 22, 23, 24 ans, on les gère plus comme on gérait les vétérans d'une autre époque ou les joueurs d'une autre époque. Maintenant, ces joueurs-là ont besoin d'être consultés, d'être impliqués dans le projet. C'est tout naturel. C'est l'évolution. C'est comme ça que maintenant les jeunes, les joueurs plus jeunes intègrent le marché du travail. Donc, que ce soit des jeunes qui s'occupent de jeunes, parce que c'est pas une vieille équipe, là. Austin Matthews, c'est pas vieux. William Nylander, c'est pas vieux. Mitch Marner, c'est pas vieux. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe des Maple Leafs de Toronto qui font donc le noyau de cette équipe-là. Oh oui. Et maintenant, c'est des jeunes qui vont les diriger. Je déteste pas ça du tout. Moi, je trouve ça très intéressant et c'est un peu...
Ça risque de produire un effet. Non, mais c'est que là, on amène un contraire de Babcock. Babcock, ouais, tu sais, à un moment donné, c'est souvent là, Shannon, bon cop, bad cop. Là. Pas Babcock, mais bon cop, bad cop. Mais c'est ça pareil. C'est que, tu sais, oui. Jacques Demers, quand il est arrivé, il suivait Pat Burns. Il y a souvent une affaire de yin et de yang dans la transition des entraîneurs. Quand on a un gars qui est trop lousse après une couple d'années, ben là, l'équipe, des fois, manque un petit peu de tonus, manque de peut parfois manquer de discipline. On ramène un gars qui a la poignée un peu plus ferme. Mm-hmm. Mais là, on amène un gars qui a gagné dans la Ligue américaine.
Qui a tout gagné.
Et Babcock, je ne sais pas s'il va se retrouver du travail, mais juste te dire comme ça, sais-tu combien de matchs éliminatoires les Leafs ont disputés depuis 2006?
Depuis 2006? Pas beaucoup. Hein.
27. 27, 4 participations en série. Le Canadien a disputé 82 matchs éliminatoires. Dans les deux villes, on n'a rien gagné, mais juste te dire que... Il y a des fois que ça a pas eu l'air trop joli ici, puis il y a pas de garantie que ça va être plus joli. Puis moi ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que tu sais à Montréal quand ça va mal, là, le monde aime ça bitcher entre guillemets, puis de dire ben là tout le monde fait mieux, qu'est-ce qui se passe à Montréal. Fait quand ils ont engagé Dubas, c'était le nouveau bouton à quatre trous, c'était la nouvelle sensation. Hey, eux autres sont cool à Toronto. Ils engagent Haile Wakenaza, sont cool, ils engagent Babcock, sont cool, ils repêchent la loterie, ils tankent, sont cool. Ben c'est pas si cool que ça, manquer série si souvent que ça. Puis même la signature de Tavares, c'est supposé être cool. Fait autrement dit, quand ça, au pire de la crise ici à Montréal, là, tout ce qu'on entendait dire de Toronto, c'était tout parfait. Mm-hmm. Et Toronto, là, c'était les nouveaux génieux qui n'ont pas gagné la Coupe depuis 67. Toutes leurs décisions de plonger au classement, de gagner à la loterie, c'est de même qu'il fallait faire. Ben, c'est-tu vraiment de même qu'il fallait faire? Toronto sont encore dans le trouble. Ils vont peut-être rebondir à partir de maintenant. Mais m'a dit une affaire, t'avais pas de garantie. Puis c'est toujours plus beau chez le voisin. Puis je rappelle qu'ils ont joué 27 matchs éliminatoires. C'est une honte depuis 2007. Oui, là, vraie honte.
Je suis d'accord avec toi, Mario. Il faut regarder qui était à la tête de cette équipe-là, oui, dis-je. Brendan Shanahan, un gestionnaire de son époque.
Ah, ça, c'était Lou Lamoriello, comme nomination.
Un gestionnaire d'une autre époque encore plus lointaine. Mike Babcock, un gestionnaire de son époque et de son style. Et là, sont remplacés par Sheldon Keefe et Kyle Dubas, des gestionnaires de leur époque qui vont gérer des jeunes joueurs de leur époque. Moi, je trouve ça très intéressant comme nouvelle dynamique chez les Maple Leafs.
Moi aussi, puis je pense aussi que les joueurs, là, ils savent quand ça fonctionne pas entre un directeur général et un entraîneur. C'est tellement clair. Puis chez eux, là, chez les Maple Leafs, c'est ça, c'était tellement évident que ça fait mal à une organisation. Tu peux pas dire aux joueurs « Hey, les gars, là, les 20 dans le vaisselle, on travaille tous ensemble. On a un but commun, puis on fonce dans la même direction. Puis nos égos, on les met de côté pour la plus grande gloire du logo. Puis pendant ce temps-là, là, tes patrons, là, tu sais qu'ils s'entendent pas, les deux, là, puis qu'ils s'ostinent tout le temps sur les joueurs, puis les journalistes rapportent ces conflits-là, puis ils lisent ça. Ça peut pas fonctionner. Alors là, Dubas, il travaille avec le gars, avec Sheldon Keefe, avec qui était son entraîneur dans les rangs juniors, qui était son entraîneur quand il était directeur général adjoint de Lamoriello et qui s'occupait des Marlies de Toronto. Et c'est son ami, c'est son camarade.
C'était écrit dans le ciel qu'il allait coacher un jour.
Alors moi, je pense que les Maple Leafs, oui, je pense qu'ils sont lancés, je pense qu'ils vont participer aux séries, puis je pense toujours qu'ils vont devancer le Canadien au classement.
Le plaisir va revenir dans cette équipe-là, s'ils gagnent des matchs, puis là, on verra, ce sera en série qu'on pourra vraiment analyser de quoi ils sont capables, mais c'est sûr que ça va provoquer de quoi de positif. Je pense que les gars se sont retenus de pas faire un party public. Avez-vous vu? D'ailleurs, un commentaire, tu sais, des fois, il y a des commentaires un peu hypocrites de dire, ah, c'est nous autres. J'en ai pas vu. Avez-vous vu des commentaires des joueurs des Leafs?
Non, c'est vrai, ça. T'as raison. Souvent, c'est tout le temps ça. Le coach est pas à blâmer. On a une partie du blâme à prendre et tout. Non, ça n'a pas.
Ça va peut-être sortir, mais j'en ai pas vu à date.
J'en ai pas vu.
Tout ce que j'ai vu à date, Tyson Barry qui a dit. It's a new lease. Donc, c'est comme un nouveau bail qui commence avec un nouvel entraîneur. Donc, je pense que la page a été tournée assez rapidement dans le vestiaire des Maple Leafs. J'ai trouvé très intéressant aussi Kyle Dubas, de ce qui a été rapporté. Son discours aux joueurs est allé aussi loin que dire « on va changer notre style de jeu ». C'est très rare au corps de la saison qu'on arrive et qu'on dit « on va changer notre style de jeu ». Mais c'est très clair, comme disait Philippe, que Kyle Dubas est arrivé là avec son homme. Je suis persuadé que les deux sont sur la même longueur d'onde sur ce à quoi doivent ressembler les Maple Leafs de Toronto. Et pour qu'il y ait dans le vestiaire dire « on va changer notre style au corps de la saison », moi, je trouve ça très gros comme commentaire.
Les gars, on est vraiment tout près de la fin. Fait que vous savez, des petits coups de fouette à donner dans la conversation. Je n'ai pas qui a prédit que Nashville allait gagner la Coupe cette année. Est-ce quelqu'un qui a fait ça ici?
Non, j'ai fait ça à l'époque, mais pas cette année.
À l'époque, oui.
Non, mais tu sais, quand on parle des équipes qui
sont rendues en finale,
ils vont sûrement remonter un moment donné, mais là, ça paraît pas bien pour Nashville. Ralph Kruger, c'est l'entraîneur de
Il faut qu'il arrête la glissade, là, parce que, écoute, ils avaient tout un début de saison.
J'adore Ralph Kruger encore, mais...
La saison est jeune, là.
Je dois avouer que récemment, c'est plus difficile.
Est jeune, mais il y a des tendances, là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des questionnements. Maintenant, c'est très difficile à certains endroits.
Mais les gars, moi, c'est les Islanders de New York, là. Tu sais, sans Tavares pour une deuxième année, ceux qui pensaient que c'était une espèce de soubresaut l'an passé, de fierté puis d'orgueil, hey, ils ont perdu trois matchs en temps réglementaire, une défaite seulement en prolongation, 16-3-1.
C'est exceptionnel.
Cinq victoires de suite. Puis regarde le ralignement, c'est pas clair là que. Comme quoi, tu sais, des fois, on regarde les noms dans le dos, mais on oublie c'est quoi une équipe.
C'est le directeur général de l'ancienne génération.
Hey, lui,
qui va dire ça.
Oui, c'est bon ça, Philippe. Merci d'y avoir répondu.
Je suis d'accord.
Hey, le kid, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Oui.
Un directeur général de l'ancienne génération qui a engagé celui qui doit être le meilleur coach de la Ligue, Barry Trotz.
Ouais, c'est vrai.
Hey, bonne celle-là. Ouais. Les faut pas jeter les vétérans tout dehors en même temps, GF.
Là, faut essayer quelque chose. Essayez-le.
Donne-leur une petite chance, ces pauvres petits vieux-là. Merci, Jean-François. Merci, Philippe.
Merci, salut. Mario. Merci, Jean-François.
Hey, merci, tout le monde. Bonne fin de semaine. Canadiens Rangers demain. Sans y aller de prédiction, on s'est entendu pour dire que ça serait une maudite bonne idée de gagner ça pour le Canadien.
Souhaitons à Max Domi d'avoir la première étoile.
Oui. Salut tout le monde et bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. C'était Sortie de zone.